Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour peut-être un dialogue. On se demandait avec notre invité de ce soir-ci, est-ce que ça avait lieu? Est-ce que c'était possible, les dialogues? On tente ça tous les soirs, en tout cas avec les artistes. Et aujourd'hui, c'est Fia Ménard qui est notre micro.
Un tango? Une danse? Un baiser?
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis fatiguée.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Cela se passe dans les toilettes des hommes vers 10h moins le quart hier soir à la MC 93 de Bobigny. Un spectateur, entre 70 et 80 ans, certainement abonné au théâtre, demande à un autre, 40 ans, de lui redire la phrase prononcée avant le lever de rideau. Il dit « J'ai bien entendu le mot « je » et j'ai entendu le mot « chatte » à la fin, mais entre les deux, je ne suis vraiment plus sûr. » Et le plus jeune de lui répéter la phrase comme il s'en souvient « Je te claque la chatte ». Et les deux, de se séparer poliment après ces mots en convenant que vraiment, ces femmes sont incroyables. Vraiment, quelle énergie. Alors vous voilà exaucé, Fia Ménard, vous qui écrivez que c'est l'œuvre dans la trace qu'elle laisse et hante les corps et les conversations qui vous importent. Car cet échange m'a été rapporté, il avait lieu juste après la représentation de Saison Sèche, votre dernière création, jouée jusqu'au 13 janvier à la MC 93 donc, et en tournée ensuite Orléans, Douai, Marseille, Nantes, entre autres. Bonsoir Fia Ménard.
Bonsoir.
Et bienvenue. C'est un acte théâtral en cinq moments auquel vous nous invitez, qui commence dans une forme d'oppression froide, blanche et lumineuse, et qui termine dans des ruines trempées. On y assiste, et tout cela a lieu en janvier aussi. Je me permets de vous demander si vous avez un vœu pour l'année qui commence. Ou plusieurs, on est généreux.
Mon premier, ce serait peut-être que les flics arrêtent de taper sur les manifestants. Qu'ils arrêtent d'envoyer des grenades, qu'ils blessent des balles en caoutchouc. J'aimerais peut-être un peu de dialogue.
Et votre deuxième?
La paix.
Alors que vous soyez exaucé. On va commencer par cette première image, qui est en fait la seconde, puisque la première image, si on parle en termes d'image, c'est votre corps. Devant un rideau, après un temps certain, un temps installé, qui prononce une phrase dont ne se souvenait pas ce vieux monsieur. Première image. Deuxième image, les machines du théâtre arrivent. Est-ce que vous le pensez comme ça? Est-ce que c'est vraiment une écriture par image, Fia Ménard, avec cette première qui serait vous prenant la parole?
J'ai pas de règles, en fait, dans l'écriture. Je fonctionne à un dialogue déjà avec le co-auteur avec qui je travaille depuis des années et qui est vraiment la personne avec qui j'ai ce dialogue finalement de sans arrêt poser la question qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on montre. Dans Saison Sèche, on fonctionne par tableau. En fait, on fait des ellipses en permanence. C'est une pièce à ellipse. Alors cette première ellipse, elle est en effet ma présence de mon corps, tout simplement pour assumer et aussi dire à cet endroit, puisque ce qu'on va voir en premier, c'est un acte de la soumission, c'est une dénonciation, mais en même temps, c'est aussi de rappeler que je sais que je ne peux pas m'extraire de mon histoire personnelle et que à cet endroit-là, je suis peut-être la seule à pouvoir dire ce que je dis devant un rideau et de positionner le spectateur à cet endroit, à l'instant où il est, en lui disant « Voilà, si je te dis cette insulte, je sais que les hommes se posent la question « Pourquoi elle nous dit ça ? Est-ce qu'on a déjà dit quelque chose comme ça ? Est-ce qu'on a déjà fait un acte comme ça ? Et je sais aussi que les femmes dans cette même salle la prennent comme une synthèse de tout ce qu'elles auront pu entendre. » Alors c'était pour moi évident de le poser comme un acte direct et de dire « Nous allons démarrer ici car je ne sais pas d'où vous venez, mais il faut que je vous dise. Ce spectacle démarre là par cette locution insupportable qui n'est jamais que la traduction de l'expression de Donald Trump. Donc, quelque part, rappeler, oui, le patriarcat, le virilisme, le masculinisme, ça part de là.
C'est une forme de, pas remise à zéro, mais de mise à plat, en effet, de point de départ pour nous autres dans la salle. Et comme vous le dites, ça a des échos différents. J'imagine aussi en fonction des générations, peut-être, parce qu'il y avait des générations très différentes hier dans la salle à Bobigny. Et je suis persuadée que hommes comme femmes ont eu une manière de faire résonner cette expression. Et c'est pas un hasard si cet homme de 80 ans n'était pas certain d'avoir très bien entendu. Première image, celle-ci. Deuxième image, je dis les machines du théâtre parce que c'est assez impressionnant. Le dispositif, c'est ça qui nous saisit. Et les corps comme des araignées sombres sous ce plafond qui va ensuite les contraindre en montant et en descendant. À quel moment de la création, dans votre dialogue avec votre co-auteur, est arrivée cette machine, Fiamma?
Alors, la machine est arrivée bien avant, en fait. La machine est arrivée dès le début. Elle est arrivée comme une synthèse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà 3 ans de ça, lorsque j'écrivais une pièce qui s'appelle « Belle d'hier », j'avais demandé à 5 femmes de ranger l'humanité et de faire la dernière lessive où j'avais mis finalement ces princes charmants congelés qui se transformaient en serpillères et ces princesses récoltaient le fait que ces princes charmants ne pouvaient pas tenir les promesses. À ce moment-là, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que le patriarcat? Qu'est-ce que c'est qui pourrait symboliser? Et le symbole, c'était de dire, déjà, il y a ce poids de la virginité. Ce poids de la virginité, c'est une couleur, c'est le blanc. La deuxième, c'était de dire, ce plafond de verre réel, c'est finalement un plafond qui, sans arrêt, interagit. On pourrait croire qu'il va se pousser, mais non, c'est pas nous qui le contrôlons, toujours pas. Donc ça veut dire que le plafond monte et descend d'une manière incontrôlable, ou en tout cas on comprend que ce ne sont pas elles qui le contrôlent. Et en plus, cette scénographie, je voulais absolument qu'elle rappelle le côté important, c'était moi qui ai perdu du passage de la peau de l'homme à celle de femme, l'invisibilité dans la rue, c'était de rappeler la visibilité, c'est-à-dire celle du regard permanent sur le corps de la femme, de ce du côté scruté, du côté de la proie. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé que cette scénographie aurait des meurtrières. Parce qu'il faut se poser la question, la meurtrière est une fenêtre, mais il faut savoir de quel côté on est. Est-ce qu'on est du bon côté de la meurtrière? C'est aussi une forme de synthèse de notre société où il y a des caméras partout. Donc un état de la surveillance. Et ces corps de cette femme sont dans un espace de la surveillance, qui est en effet une machine.
Une machine qui les regarde, une machine qui les écrase, une machine qui les contraint et qui convoque plein de choses dès le départ pour nous, Fiaménard. Aussi des vieilles images. Moi j'ai beaucoup pensé à Charcot, j'ai beaucoup pensé à la manière dont la folie des femmes a été regardée, mise en scène, leur hystérie, leur corps, leur sexe. Les femmes que vous mettez sur scène sont nues et portent une sorte de chasuble écrue qui nous emmène aussi vers un endroit presque médical, couplé à la lumière. C'est assez fort, cet imaginaire-là. Pourquoi est-ce que vous le vouliez? Si vous le vouliez.
Ah oui, alors je le voulais complètement. La question, c'est en effet échapper à l'imaginaire de Charcot, c'est-à-dire à tout ce qu'on a pu véhiculer. C'est aussi pour nous un élément très important de rappeler que à cet endroit-là, est-ce qu'on a vraiment quitté cet espace où on nous dit hystérique par moment, où on nous le rappelle assez régulièrement, et on n'a toujours pas, ça n'a pas disparu. Alors, il était évident que dans cette scène-là, elles allaient se retrouver avec un dispositif très particulier, et notamment, voilà, ces chasubles, ces espèces de robes, sont les moyennes de leur mensuration. C'est le critère de la mode. Ça ne va à personne. C'est ça la mode. C'est que ça ne va à personne. Donc pour certaines, c'est trop court, donc on voit leurs fesses, et en plus, elles n'ont pas de culottes. Donc ça veut dire que c'est l'inconfort dans lequel on veut les maintenir. C'est ça la soumission. La soumission, c'est sans arrêt faire croire qu'on a transformé, qu'on a offert quelque chose. Mais non, on maintient toujours la soumission.
C'est cette espèce de constat, d'image de constat que vous voulez faire, Fiaménard?
Oui, c'est aussi justement, puisque c'est une épopée, saison sèche. Ça passe par des ellipses. Ces ellipses, elles sont temporelles, mais elles sont aussi pour rappeler que dedans, on y retrouve quelque chose qui est complètement actuel. Il n'y a pas d'autre solution que de partir d'un constat. Alors, c'est une forme de synthèse. Bien sûr, dedans, on pourra me reprocher de dire on revoit l'histoire de ces folles de Charcot. En même temps, comme vous dites, c'est médical, ça reste un rapport médical. Le corps féminin est traité d'une manière très médicale. Il est scruté, il est surveillé. Il y a quelque chose pour ça d'assez perturbant, et notamment par le fait que d'un seul coup, on allume la lumière, on l'éteint, d'un seul coup, ce plafond monte. D'un seul coup, elles peuvent enfin se relever, mais au moment où elles se relèvent, le plafond redescend. Qu'on ne sait jamais s'il y a finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un mauvais geste pour qu'elles soient toutes condamnées? C'est ça la question. C'est qui la fautive pour qu'on se tape nous sans arrêt ce retour de bâton? C'est presque ça qu'il faudrait se poser comme question. À quel moment, dès qu'il y en a une qui va ouvrir un peu trop le débat, dès qu'elle va obligé finalement à dire mais vous trouvez ça normal?
Vous avez pris le soin de dire que c'est quelque chose que vous avez découvert, Fia Ménard, que vous avez quitté l'invisibilité. Vous vous y attendiez?
Je le savais. Je le savais de plusieurs choses, c'est-à-dire que l'existant que j'ai vécu avec le corps d'homme, où j'ai essayé d'être un homme, j'étais féministe. Mais comme je dis, j'étais féministe, c'était un loisir politique. C'était un loisir. La permanence de mon corps d'homme me faisait revenir du côté du pouvoir. À présent, je ne l'ai plus. Ce matin, dans un lycée, j'expliquais devant des premières et terminales, hommes et femmes, donc jeunes hommes, jeunes femmes, que je traversais souvent la nuit, pendant des années, de cette peau d'homme, du théâtre jusqu'à l'hôtel où je dors, et que pendant très longtemps, je me suis jamais posé la question. Et qu'aujourd'hui, ce même chemin, dans les mêmes villes, je me suis rendu compte que j'ai croisé le chemin de certaines personnes qui me rappelaient que je leur plaisais d'une manière vulgaire. Et donc, je me suis rendu compte de l'invisibilité et de la visibilité. Je suis passé du statut du chasseur à celui de la proie. Alors, j'étais certainement un mauvais chasseur, puisque je ne pratiquais pas ça. Par contre, maintenant, je suis une proie. Sauf que je suis une proie, et comme je dis, qui se rebelle. Et si la proie ramène la flèche au chasseur en lui disant « mais tu m'as loupé », le chasseur n'a pas de seconde flèche. C'est peut-être ça qu'il faut rappeler. C'est que le chasseur est pas très très bon en fait.
Il est 10h du matin. Il pleut. Un violoniste est venu avec son violon monocorde et joue les airs des haukas. Les hommes attendent. Et Muntieba s'est endormi la tête contre le palais du gouvernement. Ce qu'ils attendent, c'est un chien. Pourquoi un chien? Parce que justement, c'est un interdit alimentaire total. Si les haukas tuent et mangent un chien, ils montreront qu'ils sont plus forts que les autres hommes noirs ou blancs. On prépare les fusils, les écharpes rouges de commandement. Et tout est rassemblé autour de l'autel du sacrifice. Alors, la danse commence. C'est Muntieba qui ouvre la danse, car il faut que tous les haukas soient possédés. Les sentinelles entourent les danseurs. Ils tiennent les fusils de bois ou des cravaches faites avec des courroies de ventilateurs de camion. L'un des punis, entendant la musique, veut se mêler au cercle des danseurs. Mais il n'a pas le droit d'être là, puisqu'il n'est pas encore possédé. Et Muntieba le chasse vers la brousse.
Ce ne sera pas le seul chassé. Fiaménard, on entend ici un extrait de Des Maîtres Fous, ce film de Jean Rouge dont vous dites qu'il vous hante depuis longtemps et peut-être que dans cette création Saison Sèche, il y a quelque chose de ce que ce film vous a fait. Et je vous citais en introduction, vous dites ce qui vous intéresse dans les œuvres, c'est la manière dont elles hantent les corps, les esprits, les conversations bien après. Et tout à l'heure, en chargeant cette archive, on s'est dit, mais est-ce que Jean Rouge pouvait imaginer en 56, filmer quelque chose qui inspirerait tant Fia Ménard qu'elle en ferait un objet qui lui-même inspirerait des générations. Derrière moi, il y avait une tripotée de jeunes filles de 17 ans qui étaient debout à applaudir à tout rompre hier soir. Voilà, petite parenthèse, mais c'est intéressant de voir ce que les œuvres se disent les unes aux autres. Alors, Les Maîtres Fous.
Oui, Les Maîtres Fous, bon déjà c'est une découverte, là pareil, c'est Jean-Luc qui mon co-auteur qui a une bibliothèque incroyable et une capacité à aller fouiller et qui m'a fait découvrir ce film que je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler, je l'avais jamais vu. Et lorsque je l'ai vu, j'ai été absolument stupéfaite, notamment, bon, voilà, c'est un film qui date, mais dedans, ce qui est pour moi plus important, c'est que je me dis, mais peut-être que ce qu'il filme, ça a marché. C'est ça qui m'a inspiré, c'est de dire, les Aouka, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une cérémonie, cette cérémonie, ils convoquent les esprits des colons. Ça se passe dans les années 50. Et en effet, bah voilà, ils sont investis, d'un seul coup, les esprits arrivent. Mais peut-être que justement, la question c'est plutôt aujourd'hui, peut-être que ça a marché, peut-être qu'une partie du colonialisme a disparu grâce à ça, peut-être que c'est ça en fait. On peut se poser la question. En tout cas, moi je me prête à rêver de ça. Quand j'écris Saison Sèche, je pense à ça. Je me dis, mais si nous on faisait un cérémonial, un rituel, pour faire tomber le patriarcat.
Nous qui ?
Nous, artistes là, sur cette scène. Si on imaginait d'un seul coup, voilà, créer une sorte de danse rituelle avec ses gestes, avec sa cérémonie, pour arriver à peut-être évoquer un combat et surtout glorifier ce combat et peut-être lui donner l'espoir que ça va arriver, c'est-à-dire que ces murs s'effondrent d'eux-mêmes, donc que le patriarcat s'effondre lui-même.
Et c'est avoir une grande foi dans l'acte artistique que de faire ça, Fia Ménard, que de postuler ça.
Oui, mais si on le fait pas, à quoi ça sert? Alors dans ce cas-là, c'est pour la beauté. Mais la beauté, elle est ailleurs. La beauté, elle est dans ce que nous vivons, dans tous les jours, de savoir chercher. Créer des actes comme ça, avoir la pertinence de proposer ça à des spectateurs qui vont payer leur place, qui vont faire le choix de venir voir quelque chose, il faut essayer de leur faire vivre quelque chose. Ça, oui, ça, c'est important. Alors, leur faire vivre, c'est aussi leur raconter des combats. Leur raconter des combats, c'est une belle utopie. On sait très bien que c'est perdu. Mais c'est l'utopie qui nous intéresse. C'est de croire qu'on pourrait y arriver. Donc, moi, j'aime créer des espaces de l'utopie et des espaces de combat. Et moi, j'ai envie de rêver que ça puisse fonctionner. J'ai envie de me dire que chaque fois que, à cet endroit-là, nous allons proposer sur scène la possibilité d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des gestes durs, des gestes d'humour, ça porte quelque chose. Et peut-être que ça porte quelque chose, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, dans les toilettes de Bobigny, s'est passé déjà un dialogue entre une personne âgée et un plus jeune. Et ce dialogue s'est confronté en se disant...
Est-ce qu'on a bien entendu ce qu'on a
entendu? Et en même temps, qui se dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Bon, voilà, c'est un début de dialogue. C'est ça, le mouvement. Le mouvement, c'est d'essayer de provoquer des choses, non pas pour qu'on vous dise, c'est beau ce que vous faites.
Pour faire bouger un peu les lignes, quoi. Voire beaucoup.
Faut essayer.
Et alors, vous vouliez témoigner de quoi en 2018 en écrivant Saison Sèche? Et en faisant jouer à vos interprètes, en leur proposant de jouer Saison Sèche?
Je voulais témoigner de la puissance. Ces femmes, vous les regardez, ce que je leur disais au début, avant de commencer le travail sur ce spectacle, je leur disais, c'est pas un bon plan pour draguer. Hein.
Parce que des femmes puissantes, ça drague pas, ça marche pas. C'est pas hyper bon plan pour.
C'est pas hyper bon plan. Ça fait un peu peur, non. Ça fait un peu peur, je pense. Notamment dans le fait de voir à quel point elles se libèrent de leur corps, de leur sexualisation que l'on impose à leur corps.
Ça, c'est pas très charmant, c'est pas très séduisant.
Je pense que ça fait très peur. Ça fait très peur d'être libre, non ? De s'affranchir. Être affranchi, c'est quelque chose qui est assez fou. C'est défier. Défier les codes, défier déjà ne serait-ce que sa propre culpabilité.
Donc vous leur dites ça, vous leur dites, bon, je vous réunis, mais je vous préviens, ce ne sera pas un super bon plan drague. Mais par contre, vous êtes puissante. Si je vous choisis, c'est que je fais l'hypothèse de la puissance.
Je ne fais surtout pas le choix, c'est elles qui choisissent. Je ne fais pas d'audition. Toutes les interprètes qui sont là sont des personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai eu un dialogue de base pour savoir finalement qu'est-ce que c'est que la limite, qu'est-ce que c'est que le dégât collatéral, qu'est-ce que c'est que ton corps, qu'est-ce que tu es prête à offrir aux spectateurs. Sachant que je leur dis, dans le théâtre que nous construisons, celui qui m'intéresse, j'offre mon corps au spectateur pour qu'il puisse vivre quelque chose qu'il n'oserait pas vivre de lui-même. Je lui offre la possibilité de suivre un espace, un moment qu'il va devoir digérer, qu'il va devoir partager, parce qu'il aura des doutes, et que j'ai besoin de lui mettre des doutes, que rien n'est arrêté, que la transformation, c'est aussi notre mûrissement, que le dialogue se passe parce que d'un seul coup, les choses ne sont pas didactiques, que le dialogue se passe justement parce que l'une et l'autre, l'un et l'autre ne voient pas la même chose, n'interprètent pas la même chose. Mais par contre, on va vivre une forme d'empathie. On va avoir de l'empathie pour ce corps, pour ces corps sur scène. On va avoir la possibilité de se sentir être l'autre. Ou en tout cas, on cherche ça.
Vous avez davantage discuté de limites, de corps, de dégâts collatérales, Fia Ménard, que de patriarcat, que de féminisme, que de théorie, en fait.
Oui, parce que la grande différence, c'est que lorsque j'étais dans la peau d'un homme, j'ai très peu connu la fraternité. Parce que dans la fraternité, j'ai connu le faire. Faire des choses. Faire. Et de mon corps de femme, du dialogue que j'ai aujourd'hui avec les femmes, dans la sororité, je parle du être. Et nous parlons de ce que nous sommes, de ce qui nous touche, de ce qui est dans l'intime, de ce qui nous relie, et c'est aussi ça la question des femmes. Dans le dialogue des femmes, il y a sans arrêt cette expérience de l'intime, de la justification de sa présence, de la justification de son corps, de la justification de son quotidien. Et à cet endroit-là, c'est ça, le féminisme, je dis souvent, je ne sais pas comment on fait pour ne pas être féministe.
Moi non plus, je ne sais pas comment on fait.
Alors, dans notre dialogue avec ces sept femmes, on est passé par des phases qui ont été de quoi on veut se plaindre. Et une fois qu'on a vidé ça, mais de quoi nous sommes faites? De quoi sommes-nous capables pour sortir simplement de la condoléance? Et qu'est-ce que ça veut dire se réapproprier un corps? Est-ce que moi je peux vous aider à faire que sur scène on se réapproprie un corps? Que ce corps, on traite de son assignation et de se dire, tiens, si tu devais faire toi, femme, le même chemin que moi j'ai fait, c'est-à-dire faire le chemin inverse, passer de l'identité de femme à l'identité d'homme, comment ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Non. Non. Tout s'apprend. J'ai gardé en moi l'apprentissage du garçon. J'ai gardé en moi les gestes. J'ai gardé en moi beaucoup de choses qui ont été une forme d'apprentissage, de construction. Et au fur et à mesure de cette transition, je dialogue et j'apprends par mimétisme. J'ai appris par simplement senti, décomposition, comprendre que mes gestes étaient aussi ceux d'une femme et qu'un même corps, chair organique, faite, quel que soit l'être humain, de la même manière, il existe dans l'apprentissage, finalement, les deux identités. Et qu'on se dit souvent quelle est notre part masculine, notre part féminine, finalement, c'est juste que c'est la moitié. mais on la travaille pas. Alors là, on a fait ce chemin de découvrir par une sorte de travail de drag king quel homme elle serait. Alors elle chausse certains vêtements qui deviennent ce qu'elle serait le plus proche. Elles deviennent dans leurs gestes quelque chose si elle devait devenir des hommes.
On y viendra, c'est un des tableaux qui arrive après un tableau que je ne sais pas comment appeler, une sorte de transe collective avec des solos individuels. Quand vous dites que vous avez proposé à ces femmes de leur dire comment je peux vous aider, comment je peux vous aider à vous réapproprier votre corps, à sortir des assignations, quelle réponse vous donnez, Fia Ménard ?
Je crois que je ne donne aucune réponse.
Comment je peux vous aider, vous...
Je donne un processus.
Oui, voilà, c'est ça.
Ce processus, il est complètement chorégraphique. Il est d'offrir un cadre. C'est sortir du jugement. C'est d'offrir la possibilité de dire vas-y, sois ça, n'aie pas peur, de dépasser les moments de rire. De peur, de se sentir jugé. C'est d'offrir un cadre, c'est d'offrir l'invisibilité à un moment, de dire, vas-y, si tu veux faire ça, vas-y. Ici, ça reste là, dans cet espace, il n'y a pas de souci.
C'est paradoxal quand même, c'est sur une scène, donc c'est peut-être pas l'invisibilité, c'est une forme de visibilité, mais qui n'a peut-être pas les mêmes conséquences.
Dans l'espace du processus, c'est-à-dire avant la scène, oui, ça c'est invisible. Tout ce qui se passe en studio, en recherche, garde et reste. C'est aussi justement ça l'important. Je dis souvent, pour moi le théâtre est une grotte où je sais que c'est l'endroit où on peut faire tout ce qu'on veut. Encore. Vous faites la même chose dans la rue, vous vous ferez arrêter. Dans un théâtre, vous pouvez encore faire ça. Vous pouvez encore essayer de provoquer et dire l'être humain, c'est bien plus que ça. C'est encore autre chose. Ce n'est pas qu'une répétition d'un classique, d'une forme déjà vue, revue et qui plaît. Là, on est dans la complaisance. Au moment où on dépasse ça et qu'on commence à offrir un cadre en studio qui est de chercher profondément, d'aller chercher en soi, avec d'autres, de savoir que dans ce cadre-là, ça reste dans cet espace-là, et de faire le choix ensuite, et c'est bien là la question des dégâts collatéraux, c'est de faire que l'interprète sait exactement ce que ça va entraîner. Je dis souvent, à l'époque où j'ai créé le spectacle PPP, qui est une pièce du coming out, avec voilà, j'étais dans un espace dangereux avec de la glace, ma mère, je sais très bien qu'elle m'en voulait de danser dans un espace glissant avec de la glace et d'avoir un hachoir de boucher dans la bouche. J'en ai fait, finalement, je l'appelais pour lui disant « Maman, c'est bon, je suis sortie de scène, ça va, je suis vivante, t'inquiète pas. » Et c'est ça, dédramatiser nos actes, mais en même temps les offrir. Donc ça veut dire comment on arrive à créer le dialogue, encore une nouvelle fois. Créer ce moment où on dit, oui, cet acte-là, il est important de le faire, je sais quelles conséquences ça va avoir, et je sais comment y répondre, comment je vais pouvoir le mettre en dialogue avec l'autre.
J'aime bien me dire et dire que je suis une sorcière.
Et ça se voit en quoi ?
Je pense que c'est ça se voit dans peut-être la façon dont on joue du visible et de l'invisible, dont on est à la marge, dont on est du côté du minoritaire, dont on peut mordre quand il est nécessaire de mordre. J'ai envie de dire que c'est pas le pouvoir, c'est la puissance.
Oh, je pose le truc avant de courir et
regarder derrière en courant. Progressivement, je change. Et là, je jette des sorts. Là, vers le bas. Au milieu. En haut. Je refais le quart d'écart. Bon. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de figures, en fait. Ce truc de jeter des sorts avec les mains vers le bas, mais on a l'impression qu'il n'y a que les bras, mais en fait, il faut y aller avec le dos. Ça, j'aime beaucoup d'énergie et beaucoup de pouvoir. Et là, bam!
Yeah!
celles qui soufflent et dont on entend le cri, ce sont les interprètes de votre spectacle, de votre création Fia Ménard, Saison Sèche. Et juste avant, c'était la voix de Latifa Labissi dans une série documentaire signée Céline Duchesnet et Laurent Polleret, diffusée sur France Culture, qui était consacrée aux sorcières. Ce mot n'est pas prononcé sur scène, ni d'ailleurs nécessairement écrit dans les textes qui accompagnent Saison Sèche. Pourtant, c'est quelque chose à quoi l'on pense dans leur ronde, dans la manière dont elles se griment, dans leur chant, dans le rythme de leurs pas, dans ce qu'elles engagent de cérémoniel en réalité sur scène dans ce, on va dire, deuxième tableau, Fia Ménard. Comment est-ce que vous avez dialogué avec elle pour parler des solos qui s'extraient du rituel collectif? Comment les avez-vous construits? Comment ils sont nés? Qu'est-ce qu'ils disent, ces solos-là, qui sont impressionnants?
Alors, ce sont des solos qui sont arrivés comme des figures qui s'imposaient. Qui d'ailleurs sont nés complètement de leur volonté, de leur désir.
Des interprètes.
De l'interaction. Très vite, des éléments de figure étaient importants. C'était la religion, par exemple, celui qu'on entend là, hein, c'est le solo de Marlène Rostin, où elle fait un Christ qui est porté. Et en même temps, il y a une évocation d'un diable par Amandine. Et chaque solo est venu comme une sorte de représentation, justement, de un peu comme dans les maîtres fous, où d'un seul coup, comme si elles étaient imprégnées d'un esprit, de ces senseurs. Parce que tous les solos parlent d'une figure qui est renvoyée à la sorcière. Et donc, comment on a criminalisé, et c'est quelque chose qui sort dans chaque élément, puisque on a donc cette première figure, la deuxième, Jeanne, qui est ce corps désarticulé, qui tourne dans tous les sens, comme on trinque-balle quelqu'un dans un sens, dans un autre, à qui on a fait tant de promesses qu'elle ne sait plus dans quel sens tourner. Et puis cette acrobate Élise qui d'un seul coup saute à presque cette figure de l'équilibriste qui va faire du catch, celle qui doit se battre pour s'imposer et qui tape et arriver à Marion et d'un seul coup qui elle réveille cette figure d'un cri pour arriver à cette position très sexuelle où elle bouge le bassin, le fessier et qui est l'objet sexuel. Et puis arriver à Anna, cette étrange situation où elle est entourée et elle crie comme si elle revomissait toutes ces insultes. C'est vraiment, en effet, dans la construction des éléments qui viennent de se dire toutes ces choses, nous les avons vécues. Nous les avons vécues ensemble. Et chacune porte la mémoire collective, puisque ce sont des solos qui sont des mémoires collectives, puisqu'ils sont automatiquement en réponse du cœur. Le cœur est là, le cœur soutient, le cœur remplit, le cœur donne l'énergie, le cœur est sans arrêt en train de pousser. Vas-y, donne, lâche, offre, vas-y, on va le porter, on l'oubliera.
C'est ça la forme d'exorcisme qui a lieu dans ce rituel-là? C'est vers l'oubli?
C'est vers le vide. C'est le jeter. C'est arrêter de le porter. C'est de dire, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Puisque on va aborder la phase de la neutralité. Puisqu'on est rentré dans un cérémonial qui est parti quand même d'un moment où, dénudé, on part de cette peinture du corps, comme une cérémonie où on prépare notre corps à cette danse. C'est en effet une danse de sorcière. Mais c'est une danse de femme, c'est un rituel, c'est un bain. Et dedans, c'est comme si on était finalement dans un hammam. On laisse partir, on se nettoie. On se nettoie de ce que la société nous demande de porter, alors on le jette. C'est l'artiste. L'artiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui passe son temps à essayer de s'extraire de ce que la société lui demande de porter. Donc il se nettoie, il se lave pour retrouver ce qu'est la sincérité, ce qu'est le corps dans sa simplicité. De retrouver la possibilité d'être soi-même à l'endroit du non-jugement.
qui aujourd'hui n'est permis selon vous que dans une salle de théâtre ou dans les lieux d'art, Fiaménard.
En tout cas, dans le partage collectif, oui. Oui. Faites ce même acte dans la rue, je ne donne pas longtemps avant de voir débarquer une voiture de police, des vigiles, de voir débarquer le moindre contrôle pour ramener, demander pourquoi, qu'est-ce que vous faites là, est-ce que vous êtes autorisé? C'est la question, encore une nouvelle fois, est-ce que vous êtes autorisé? Est-ce qu'on vous a donné l'autorisation? Est-ce que le patriarche vous a donné l'autorisation de faire ce que vous faites? Avez-vous reçu le formulaire et avez-vous rempli? Avez-vous sciemment déclaré votre manifestation?
On entendait dans cette archive la voix de Latifa Labissi. J'ai pensé à elle. J'ai pensé à une chorégraphe, danseuse, performeuse, musicienne qui s'appelle Nina Santès. J'ai pensé évidemment à Mona Chollet. J'ai pensé à toutes ces femmes qui, aujourd'hui, après d'autres, mais depuis quelques années, s'emparent de ces questions-là de puissance féminine, dans des endroits peut-être plus obscurs, plus hybrides, avec une sorte de densité. Qu'est-ce que ça dit du temps qu'on traverse, Fiaménard? Que vous soyez plusieurs. Plusieurs au point que on le remarque. Ça commence à se voir.
Mais parce que je pense qu'on est une majorité. Nous ne sommes que, encore une nouvelle fois, les témoins et celles qui vont témoigner que la société ne fonctionne que grâce aux femmes. Les femmes s'arrêtent de travailler, la société s'effondre. Et quelque part, nous témoignons de ce dont on voudrait nous déposséder. C'est que nous avons encore le courage de maintenir cette société. Même si nous voulons la changer, et nous la changeons. Ce que je veux dire, le MeToo en est un témoignage. C'est d'un seul coup comment la société se rappelle, tac, comme une piqûre de rappel en disant « Oui, non, nous ne sommes toujours pas arrivés à l'égalité, nous ne sommes toujours pas arrivés à la liberté du corps, nous ne sommes toujours pas. » Et là, d'ailleurs, on va vous dire « Ce n'est plus possible, ça. » Finalement, on reprend le rôle où on va gronder. Alors, que nous soyons certaines, et peut-être de plus en plus nombreuses, à témoigner que l'assignation est une position désuète, qui n'a plus lieu d'être, qu'on n'est plus au 19e siècle. Mais je pense aussi, c'est parce que d'un seul coup, les hommes et une partie des hommes se posent aussi la question de leur propre assignation. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ne va pas l'un sans l'autre.
Et heureusement,
bon, ils ont encore du travail à faire. Il y a du travail à faire, de deux côtés.
De deux côtés.
Mais c'est aussi pour ça qu'on est là, nous, à dire quelque chose se réveille, quelque chose est en train de se dénouer, peut-être.
Mais ça en passe par cette forme-là, donc je situais ces artistes ou écrivains qui appellent l'imaginaire de la sorcière, mais pas que, du rituel, de la danse, du secret, de la formule, du chant. Les interprètes, certaines d'entre elles, vont chercher des cris très ventraux, très gutturaux. C'est pas très cartésien, c'est pas très franco-français cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe par autre chose que des discours à l'Assemblée.
Ben, peut-être qu'on est en train de se débarrasser d'un certain nombre d'oripeaux. Peut-être qu'on est en train de se défaire. Peut-être que la culpabilité s'effondre. Peut-être que à cet endroit-là, peut-être qu'on commence à être vraiment agacé, fatigué, et que on s'aperçoit que l'écriture de l'histoire s'est faite entre les mains des hommes et qu'on est en train de faire un acte d'archéologie et de faire rejaillir aussi que beaucoup d'éléments du dialogue et de choses qui se sont passées dans l'histoire réapparaissent et qu'on les reconvoque. On reconvoque en permanence. Donc,
pour la puissance.
Pour la puissance. France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux et Fiaménard.
with. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like flowers.
Et en cadence, eh bien, c'est la responsabilité du gouverneur militaire de Paris, le général de Zoukovitch, qu'a rencontré Caroline Langlois.
Le but de ces répétitions, c'est pas de faire répéter chaque individu. Le but est de coordonner entre chaque groupe et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps mort, que tout ça s'enchaîne bien. Et donc, c'est les jonctions entre les différents groupes, les gens à pied, les gens à cheval, les gens en moto, les gens en véhicule, les musiques, que l'on est obligé de répéter et avec un timing très précis, de façon à ce que justement tout ça s'enchaîne de façon la plus fluide possible.
Un extrait sonore de votre pièce Fiaménard, saison sèche. On est dans un tableau plus militaire que le rituel féminin dont on parlait juste à l'instant. Et précédemment, la voix de Xavier de Zoukovitch en 2007, juste avant le défilé militaire du 14 juillet, qui parle de la préparation et des répétitions. Parce que ce tableau-là obéit aux lois de ce genre de défilé, à la manière dont les corps sont en ordre. Les femmes dont on parlait tout à l'heure ne sont plus nues, elles ont revêtu progressivement qui un costume de pompier, qui celui d'un bonhomme bien portant, qui celui d'un footballeur, qui celui d'un curé, et toutes sont au pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette forme que vous avez choisie, Fiaména, et qui dure?
Oui, elle dure. Il y a des choses qu'il faut savoir faire durer. Oui, elle dure parce que, en même temps, ça dure. Ça fait longtemps qu'on marche au pas. Ça fait longtemps qu'on reste dans nos bottes. Et que, quelque part, il était évident pour moi de dire que le pouvoir ne se maintient que parce qu'il y en a qui veulent toujours rester au pas. Donc, ça veut dire que on arrive à persuader. Comment on persuade? Il parle en effet, là, avant ce gouverneur militaire, parle de la cadence, qu'il faut que tout soit bien et que tout doit être bien droit. C'est surtout annihiler la question de l'individu dans ce qu'il est, dans son unicité, dans son côté unique. Et qu'il était évident pour moi que ce moment où elles allaient revêtir le costume, voilà, de l'homme, celui du pouvoir. Il fallait que ce pouvoir, il ait une certaine cohésion. Ce pouvoir, il maintient le pouvoir. Donc quelque part, pour maintenir le pouvoir, faut qu'il montre qu'il a de l'ordre. Faut qu'il respecte les règles. Faut qu'il soit très organisé. Il faut occuper le temps. Le temps, le mouvement, et dire quelle est la cadence. Donc c'était évident que l'interprétation du pouvoir, celui qui ne pouvait pas s'effondrer, c'était la
forcément
cadence.
Forcément militaire.
Forcément militaire. Je pensais juste comme ça à un élément dans mes lectures qui ont servi notamment. Je repensais à cette Svetlana Alexievitch qui a écrit un livre sur ces femmes durant la Seconde Guerre mondiale, des femmes russes qui se sont engagées sur le front. Et elle raconte des scènes assez incroyables, notamment comment, on convoquait les hommes pour aller sur le front, et puis ces femmes qui allaient, on leur donnait, ils n'avaient pas prévu des costumes pour les femmes, donc les bottes étaient beaucoup trop grandes, elles n'avaient pas de tenue, et que les moments où elles rompaient le rang, c'est parce qu'elles avaient besoin, par exemple, elle raconte une scène où tout autour il y a une fusillade et la seule préoccupation de celle qui témoigne, c'est d'aller se laver dans l'eau parce qu'elle a eu ses règles. Et c'est elle qui rompt le rang parce que c'est une nécessité pour elle plus que la mort. Elle veut ça. Donc d'un seul coup, c'est là où le rang est rompu et que ça commence à générer une difficulté à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout ça, c'est ça qui m'intéresse. Donc à l'intérieur, on voit ces corps qui vont essayer de tenir, mais ils flanchent. Régulièrement, on en voit qui tombent. Régulièrement, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas tenable. Parce que dans l'histoire, on le voit. On a fêté...
Oui, le rang a été rompu par des hommes.
Voilà. Donc, il est bon de le rappeler que c'est aux hommes... et aussi aux femmes, de rompre le rang pour changer quelque chose.
À la réserve près que dans cette pièce-là, Saison sèche, vous proposez un processus de libération extrêmement joyeux, quasiment jouissif aux femmes. Quant aux hommes, le tableau ne leur propose que de tomber.
Oui, on peut en effet me le reprocher.
Non, non, vous pouvez vous questionner.
Non, on peut ils
tombent un par un.
Ouais.
Il tombe ou il tue.
Il tombe ou il tue. Ou il joue. Il joue à des jeux bêtes.
Et virilisant.
Oui.
Ça veut dire quoi? Pas de porte de sortie pour eux?
Si. Mais justement, parce que c'est une forme de caricature, c'est aussi une manière de faire réagir. C'est aussi les hommes qui après viennent me dire « Mais non, mais on n'est pas que ça, quoi. On n'est pas ça. » Oui, vous n'êtes pas ça. D'accord. Alors sortez de ça. Sortez de ce jeu de la représentation. Sortez de ces modèles. Faites le chemin. Mais ça veut dire aussi que qui rend le pouvoir? Quand on a le pouvoir, est-ce qu'on le rend? On en a bien des exemples? Non. Alors c'est aussi de savoir le rendre parfois ridicule. C'est aussi une solution.
Ça passe par le ridicule et ça passe par l'eau. C'est-à-dire qu'une des choses qui va détruire l'édifice, c'est la manière de s'infiltrer petit à petit dans les murs. Et petit à petit, on va voir que ces murs suent, quelque chose qui menace, mais pas par l'affront, qui menace de s'écrouler de l'intérieur, Fiaménard. Cette scénographie pour dire que c'est pas tant à la guerre que vous appelez, mais encore une fois, une forme de métamorphose.
Bien sûr. La guerre ne sert à rien, c'est juste du business, la guerre. C'est pas autre chose. C'est de l'argent. Alors que cette métamorphose, elle est qu'en effet, ces corps qu'on a vus se transformer, qui vont effectuer cette marche qui devient absurde, mais qui est aussi une sorte de... Elle est entre les deux. Cette danse qu'on appelle la bataille des avatars, elle a aussi un côté complètement danse de cour. Même si elle est effectuée au pas militaire, mais elle a un côté un peu comme ça. C'est que tout ça est ridicule. C'est le décor qui tombe. On est au théâtre. C'est le décor qui s'effrite. L'espace de l'oppression ne supporte plus. Et c'était aussi pour moi un élément important de dire, au moment où on doute du genre, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est-à-dire quand vous croisez un corps dont vous ne savez pas définir si c'est un homme ou une femme, il se passe une situation assez étrange de ne pas savoir. Parce que d'un seul coup, vous n'avez plus les mêmes codes. Vous ne pouvez plus aborder la personne de la même manière.
Et ça, c'est bénéfique ?
Je pense que ça peut être bénéfique, oui. Oui, parce que ça repositionne. Ça fait qu'on est obligé de se questionner quels sont les codes, comment on approche, comment on démarre le dialogue. Par quoi ? Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour, vous êtes qui ? Et de commencer à vraiment travailler là-dessus. Dire, mais je suis cela, je n'ai rien choisi. Je n'ai pas choisi de naître, je n'ai pas choisi mon sexe, je n'ai pas choisi d'être hétéro, homo ou trans, je n'ai rien choisi. Je n'ai pas choisi ma couleur. Je suis un être humain. Et tu es qui, toi ? C'est toujours cette même envie, justement, de dire... dans cet acte de la transformation, comme cet espace se transforme. De dire, mais tout part, non pas de dire pourquoi tu es différent de moi, mais pourquoi moi je suis différent de toi.
Du lieu théâtre, j'ai fait mon refuge et une grotte. Depuis longtemps, et grâce à la démocratisation culturelle, je suis une spectatrice. C'est mon besoin d'intégration qui m'a fait devenir créatrice. Je me nourris d'art sans me donner de quotas ni de règles et mon spectre n'a de cesse de s'ouvrir. La curiosité, voici le mot. Ma coupable curiosité. C'est cette envie de comprendre les forces en jeu qui motive mes formes. Ma curiosité est pleine de complices, des plus classiques aujourd'hui, révolutionnaires hier. Je pourrais vous les dénoncer par centaines. Maggie Marin, coupable. Pina Bausch, coupable. Yann Fabre, coupable. Tadeusz Kantor, coupable. Bob Wilson, coupable. Romeo Castellucci, coupable. Angelica Liddle, coupable. Alain Platel, coupable. Claude Régis, coupable. Joseph Nadj, coupable. Joseph Beuys, coupable. Annie Sprinkle, coupable. Cindy Sherman, coupable. Balthus, coupable. Lucian Freud, coupable. Hans Bellmer, coupable. Georges Perec, coupable. Pierre Alféri, coupable. Rodrigo Garcia, coupable. Luchino Visconti, coupable. Andrei Tarkovsky, coupable. Rainer Werner Fassbinder, coupable. Elem Klimov, coupable. Jerzy Skolimowski, coupable. Michelangelo Antonioni, coupable. Et beaucoup d'autres coupables encore. Et toutes, et tous, sont des artistes ayant refusé de taire à leur manière la douleur du monde. Ils et elles ont tous fait le choix de formes personnelles, contredisant à leur époque le sens de la discipline, pour préférer provoquer les sens et les émotions. On termine avec ces jeux et ces chants inuits, Fia Ménard, et la liste de coupables que vous élaborez dans un texte de 2018 pour répondre à une classification d'indiscipline de votre création artistique. Ce qui m'intéresse dans cette réponse, c'est les alliés. C'est la liste des alliés que vous vous faites. Et en les désignant coupables, en fait, vous les désignez amis. Et c'est une forme de... Je sais pas, j'ai lu dans cette liste, je ne m'y attendais pas du tout à lire ça, une forme de rendre grâce.
Bien sûr, je leur dois. Je leur dois finalement le...
D'avoir été, de s'être rendu coupable,
oui,
de ça.
Et de... C'est ce qui donne le courage. Ce sont les coupables qui donnent le courage. C'est quand on comprend qu'à ce moment-là, nous ne faisons que continuer le chemin. Je dois à tous ces artistes de m'éveiller au monde, à la beauté, dans le sens de l'art, dans le sens de la question, dans le sens d'une envie de témoigner de l'humanité et de le témoigner par l'art, parce que ce sont tous des personnes qui posent des actes, mais ces actes ont une force incroyable et de tous ces artistes, j'ai le deuil en moi d'œuvres.
Il y en a certains qui sont encore vivants.
Oui, et mais pas dans le sens que soit mort ou morte, c'est vraiment leurs œuvres. Ce que je veux dire, dans tous ces noms existent des œuvres qui sont en moi et qui m'ont changé la vie, qui me permettent de vivre et qui réveillent en moi le fait de dire « Ok, l'exigence. » Parce qu'ils ont tous et ils sont tous exigeants. Ils ne sont pas complaisants. Cette liste d'artistes sont des artistes qui font des actes qu'ils assument, dont d'ailleurs, pour beaucoup, on ne sait pas les définir. Ils posent problème. Et parce qu'ils posent problème, ils nous obligent, nous, à nous positionner. Comment on voit leur travail? Comment ils nous ont obligés à nous questionner? Et à dire, la puissance est là. Celle d'une évocation, celle d'une émotion que l'on garde en soi et donc on a envie de témoigner. Combien d'œuvres là sont là, d'artistes qui ont fait des œuvres dont j'en ai des flashs dans la tête et des frissons. Et c'est des vrais moments d'amour.
Merci beaucoup. Fia Ménard, Saison sèche se joue jusqu'au 13 janvier. Pas beaucoup à la MC93 de Bobigny, mais un petit peu partout. Ensuite, parce que vous partez en tournée. Au son ce soir, c'était Delphine Baudet, à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Marianne Chassor, la reine, Lou Quevauvillé, Jeanne Aléos, Anna Baron, qui m'aide à penser et préparer cette émission. On se retrouve lundi à 21h, ou plus tard, on peut se voir entre temps, et dans un instant le journal. Yeah.